Émile Bergerat, un cas de psychomancie. Je pense que les prodiges psychiques réalisés en ce moment devant les sociétés savantes par Mrs. Peepers, médium extraordinaire et truchement terrestre de l'âme du feu docteur Finuit de Lyon, m'autorisent enfin à vous conter l'histoire de ma vieille amie, l'excellente Madame Arpajou, d'ailleurs décédée l'an dernier entre mes bras. Cette histoire, que je suis seul à connaître, je ne la narrai qu'aux initiés de l'occultisme et de préférence à ceux qui croient à la survie. Il y en a, ce sont les féroces. Ceux-là ne savent pas quel drame terrifiant ils ajoutent à nos drames sublunaires. Qu'ils en jugent sur le cas de la bonne Madame Arpajou. Delphine Arpajou, jusqu'à 40 ans, mettons 35, avait été l'une des plus charmantes femmes de son temps, et, je n'hésite pas à ajouter, l'une des plus honnêtes. Mariée, en effet, à l'absurde Arpajou, homme vulgaire, bête et sensible, dont elle n'avait pas même obtenu d'enfant, elle l'avait bientôt pris en réelle aversion. Tout sur la terre et dans les cieux enseigne que le mariage est, sans la fécondité qui l'excuse, une mauvaise blague de notaire et vraiment une œuvre de mort. La nature intervint et Delphine aima. Il était temps. Elle atteignait à la trentaine. Ma vieille amie Delphine aima un brave et beau garçon, très doux et très fort, riche aussi et intelligent, qui s'en vint à l'adorer. Une liaison se noua, si fatale, si franche, tranche sur le mot, si naturelle, que le confesseur lui-même de la dame ne put que l'en absoudre chaque semaine. C'était là vraiment le minimum de l'adultère devant le bon Dieu. Du reste, la passion de ces deux êtres charmants, l'un pour l'autre, montait de jour en jour à l'inassouvissable et passait les rêves de poète. Anacréon s'y noyait dans le lac de Lamartine. Qui l'eût cru ? Arpajou, lui aussi, aimait sa femme. Mari stupide, il ressentait sa honte et remarchait son malheur. Dépossédé d'un bien sur lequel il s'arrogeait 20 droits légitimes et qu'il ne partageait même plus avec son voleur, il ne put résister à son réel martyre. Il tua l'amant de sa femme. Un duel fut le prétexte de cet assassinat. À dater du jour où elle n'eut plus cet amant pour vivre, Delphine cessa, pour ainsi dire, d'être femme. Elle ne décella plus les lèvres. Muette, fantomatique, hagarde, elle vieillissait chaque jour d'un an, et le triste Arpajou trépassa de douleur à son tour, sans avoir réentendu la voix, sans avoir revu le regard de l'implacable désolé. Ce fut alors que, doublement veuve, Delphine versa dans la dévotion et, selon le mot de son directeur de conscience, s'abîma en Dieu. Mais la piété entraîne au mysticisme, et l'on sait que, du domaine de la foi au domaine des sciences occultes, la limite flotte indécise. C'est au pied des autels flamboyants, dans les confessionnaux chuchotants, parmi les aromates hallucinatoires et soulevant des orgues, que les doctrinaires de la psychomancie recrutent le plus grand nombre de leurs prosélytes. Et l'heure sonna au cadran de la logique où ma vieille amie, Madame Arpajou, se mit, au sortir des offices et communions reçues, à faire tourner des tables. Je la rencontrai à cette époque. Curieux de frotter mon scepticisme au phénomène de l'au-delà, je hantais dans le monde spirit. En outre, j'avais beaucoup connu l'amant dont la perte s'enténébrait cette âme, et le hasard d'une causerie le lui ayant appris, elle avait accroché sur l'éternelle douleur à mes souvenirs de jeunesse. Un jour, elle me parla franchement de lui. Elle m'avoua qu'elle était en communication constante avec l'esprit du bien-aimé. Il ne la quittait pour ainsi dire point, flottant autour d'elle et l'enveloppant de sa présence impalpable. « Non seulement, me dit-elle, il n'a point cessé de m'aimer, mais il m'aime de plus en plus, il me désire, il m'appelle, il m'attire, il pleure, et son désespoir me laisse briser. Oh, je tarderai point à le rejoindre, je le sens et je l'espère. » Je lui donnai à observer que, pour que son départ fût efficace et suivi d'une bonne arrivée, il convenait d'abord de savoir en quel lieu de l'au-delà le cher amant résidait, et qu'il y allait de leur réunion. « Selon la foi que vous confessez, fis-je, et qui est la bonne, il y a là-haut deux séjours bien distincts pour les âmes désincorporées, et il n'y en a que deux qui sont le paradis et l'enfer. Tâchez donc de savoir de lui-même où il se trouve, soit dans quelle partie du sein d'Abraham, afin de ne pas faire fausse route en vous en allant et de ne pas vous courir après l'un et l'autre pendant toute l'éternité. » « Ah, certes, me jeta-t-elle, il est au paradis. » Car l'amour a de ses cris sublimes. Or, à quelque temps de là, Madame Arpajou me pria de passer chez elle. Je l'y trouvais malade, les yeux rougis par une nuit de larmes, et dans un tel état de prostration qu'il me fut impossible de composer mon visage pour lui sceller ma pitié. « Hélas !» sanglota la pauvre mourante. « Il souffre, il crie, il brûle, et c'est à cause de moi. Le crime qu'il expie, seul j'en suis la cause et l'objet. Damné, mon ami. Mon ami, il est damné, et moi aussi, vous voyez, je vais mourir. » Elle se tordait les mains, elle voulait rouler sur les oreillers sa tête échevelée. « Je ne reverrai plus » cria-t-elle. « Jamais, jamais !» Jamais. Que dire? Qu'eussiez-vous dit pour apaiser une telle angoisse, et quel cœur de roc n'en eût été bouleversé? Un mot, un seul mot pouvait lui rendre l'espérance. Mot impie, il est vrai, mot à compromettre soi-même le salut de sa propre âme, mot diabolique enfin, qu'un Voltaire n'eût pas retenu peut-être, mais est-on Voltaire? « Ne plus le revoir, lâchai Jordoba, ne plus le revoir, mais qui vous en empêche ?» Elle se dressa, me regarda, béante, et je m'enfuis, épouvanté du moyen que je venais de suggérer à cette ouaille fidèle de notre très sainte Église. Afin de se réunir à son bien-aimé, il fallait, oui, il fallait aller délibérément là où il était, vous savez où. Le lendemain, je reçus de Madame Arpajou un billet que j'ai gardé et que je transcris. « Venez, je me meurs. J'ai à vous parler, Delphine. » Avant de monter chez elle et sous prétexte de prendre exactement de ses nouvelles, je m'informai auprès de serviteurs. « A-t-elle requis un prêtre ?» leur demandai-je. Non seulement elle n'en avait point requis, mais elle avait refusé de recevoir celui, son confesseur même, qui s'était présenté pour loindre du viatique. « Ah, vous venez à point, sourit-elle. N'en est plus que pour une heure ou deux. Asseyez-vous, donnez-moi la main. Et voyez comme je suis heureuse. Je vais le revoir. Et c'est à vous que je devrais être ma félicité éternelle. Oh, merci !»«
Quoi, dans l'enfer, vous, madame ?»
« Puisqu'il y est !» fut sa réponse rayonnante. Et tout de suite, elle ajouta, « Il n'y faut, vous le savez, qu'un péché mortel !» Et elle me montra un petit guéridon à trois pieds, sur lequel s'étalaient des photographies de mon camarade de jeunesse, l'homme aimé pour lequel elle avait été faite par Dieu lui-même et qui l'attendait. « Il ne souffre plus, il ne pleure plus. » « Il ne sent plus les flammes, m'expliquait-elle. Il est là, au pied de mon lit, prêt à m'emporter, tremblant de joie. Je le vois. » Ma responsabilité m'a paru terrible, je l'avoue, et je voulus la dégager, car elle augmentait mon compte, déjà si lourd, d'incrédule à donner aux philosophies du doute expérimental. Elle comprit mon trouble profond et elle reprit. Rassurez-vous, c'est une autre communication qui m'a décidé, car hier, après votre départ, j'hésitais encore. La chrétienne convaincue qui est en moi et qui reste encore obstinément n'était pas éclairée par la lumière de l'au-delà. J'ai évoqué la puissance astrale qui guide ma religion même et qui l'assure des vérités du dogme révélé. Elles m'ont appris que si mon doux amant, si bon, si noble, si fidèle, endure à cause de notre amour les supplices de la géhenne dantesque, par contre, mon odieux et détestable mari a été recueilli dans les zones paradisiaques et placé parmi les anges pour son martyre conjugal et ses déboires. Et, sachant ceci à n'en point douter, ma résolution a été prise et j'ai congédié le prêtre, vraiment trop dur, qui menaçait par une absolution intempestive de me remettre en présence de mon bourreau et de son assassin, l'intolérable Arpajou. Et sur ce nom, elle expira, et je n'eus que le temps de recevoir dans mes bras sa belle tête aux tempes blanchies. Un mois après, j'appris par une table tournoyante que ma vieille amie avait eu raison de croire en la bonté de Dieu et à sa justice. Elle me révéla qu'elle nageait en paradis avec mon camarade de collège et que c'était Arpajou qui grillait en enfer. Et j'abandonnais mes recherches de psychomancie.